C'est parfait.
Ok, d'accord. Bien. Alors, ce que nous, c'est-à-dire Karim Laïa et moi-même, nous allons vous présenter aujourd'hui, et c'est une partie des résultats issus d'une enquête que nous avons menée dans plusieurs collèges et lycées dans le sud de la France et qui a fait l'objet d'une première, disons, valorisation dans le cadre de l'ouvrage coordonné par Laura Zanfrini, Migrants and Religion, et Laura Zanfrini qui est intervenue la première session de notre webinaire le 6 novembre. Dans le cadre disons, de cette présentation, nous allons questionner deux thématiques principales. D'une part, la thèse de la progressive perte d'influence de la religion et d'une autre part, le rôle ambivalent de la religion au sein de la société française. Et nous menons ces deux questionnements au moyen de perceptions et des vécus des élèves que nous avons interrogés. Et avant de vraiment m'attaquer à la présentation de l'enquête et de ses résultats, donc, nous allons procéder au moyen de deux. Je dirais de petites introductions d'ordre un peu socio-historique pour situer, disons, la relation entre nation française et religion et école française et religion. Comme ça est, disons, relativement connu, je dirais, donc le rapport entre la nation française et la religion a toujours été très controversé. Donc les instances politiques, ils ont toujours craint, disons, le pouvoir des instances religieuses, pour le moins dans ces deux derniers siècles. D'une part parce que l'Église, dans ces cas, on parle bien de l'Église catholique, donc elle s'est fait porte-parole d'une connaissance qui veut être universelle. Et d'autre part, parce qu'elle dispose quand même d'un réseau très capillaire au niveau territorial, disons, de pouvoirs locaux, les diocèses, les paroisses, qui peuvent interférer avec les décisions des institutions politiques centrales. Donc, l'objectif du pouvoir temporel a toujours été de s'imposer en tant que seul garant du contrôle social. Bon, de toute façon, l'histoire est riche, l'histoire contemporaine, notamment ces deux derniers siècles, sont riches d'anecdotes extrêmement nombreuses et spécifiques que nous n'avons pas le temps, disons, de détailler. Bon, on arrive très rapidement en 1905 à la loi de séparation entre le pouvoir politique et l'Église, où on inscrit le principe de laïcité. Malgré cela, si on restreint notre cadre d'analyse au système éducatif, on voit bien que le monopole de l'éducation publique a quand même du mal à s'imposer. Hein, donc, c'est-à-dire que pendant plusieurs décennies, l'éducation publique a dû vraiment cohabiter, mais de manière vraiment très, très forcée, avec la force persistante de l'école catholique, d'une part. D'une autre part, le monopole de l'éducation publique a aussi eu du mal à s'imposer en raison, disons, des critiques scientifiques qu'on lui a adressées, notamment par les biais du paradigme de la reproduction sociale qui est élaboré par Bourdieu et par Passeron. Et enfin, parce que, disons que, finalement, l'offre éducative de matrice catholique a toujours un peu été perçue comme jouant un rôle stratégique en tant que béquille, en tant que tuteur, voilà, pour les défaillances de l'enseignement public, notamment pour subvenir aux besoins de certains élèves, cela pendant longtemps, plusieurs décennies. C'est à partir des années 80 que nous avons un changement de registre qui est assez important, parce que c'est à partir de ces années-là que nous avons la prise de conscience que la société française est confrontée à une immigration destinée à rester, à s'implanter, à donner suite à une deuxième, voire une troisième génération. Et une partie importante, disons, de cette immigration est des confessions musulmanes. Et cela modifie sensiblement le cadre, les questionnements, les enjeux, les représentations. Au fur et à mesure, nous sommes confrontés à une véritable confrontation identitaire. le concept de laïcité positive commence à apparaître, c'est-à-dire finalement l'État donc s'arroge le droit de voir, de gérer la pluralité des confessions religieuses, de permettre à chaque individu d'adhérer à la confession qui lui correspond, et pour cela, l'espace public doit être le plus neutre possible. Et l'école, comme vous le savez, donc l'école donc joue un rôle clé au service de la nation. C'est-à-dire l'école en France est le principal acteur chargé de la socialisation, de la transmission du credo républicain. Donc l'école doit apprendre l'universalisme, l'égalitarisme, la laïcité. La mission première de l'école en France est de former le citoyen. Mais la question que, à partir du moment que des enquêtes ont commencé à être menées sur, disons, les caractéristiques des parcours scolaires des élèves en fonction de leur origine, on s'aperçoit rapidement que finalement l'origine, les différences, quand même, ils ont leur mot à dire lorsqu'il s'agit de comprendre, disons, certains parcours scolaires. Alors la question que l'on se pose, mais est-ce qu'on peut réellement être indifférent aux différences? Lorsqu'on a commencé alors à s'apercevoir de ces paradoxes du credo républicain, le système éducatif, qu'est-ce qu'il a fait? Il a finalement il a décidé de serrer encore plus la vis. Il a été rappelé de manière très détaillée et très claire par ma collègue Rania Nafi. Donc en 89, nous avons le premier affaire du voile. Quelques années plus tard, l'interdiction du port ostentatoire des symboles religieux. 10 ans plus tard, les chefs d'établissement, ils ont le droit d'expulser lorsque les symboles religieux sont portés de manière ostentatoire. Et en 2012, finalement, à partir de la rentrée scolaire de septembre, à partir de 2012, il faut signer la charte de la laïcité. Et aussi intéressant, à mon sens, de remarquer que je dirais que la position dominante, majoritaire pour le moins, de la classe intellectuelle par rapport à toutes ces mesures était relativement en faveur. C'est-à-dire, d'une part, pour défendre la neutralité de l'école, d'une autre part, pour protéger les femmes musulmanes d'une soi-disant, disons, domination, une possible domination masculine, et d'une autre part, pour protéger la société française des dérives, des fanatismes, des extrémismes. Mais la question est que, désormais, il est bien clair que les parcours scolaires des élèves issus de la diversité, donc je me permets d'utiliser ce concept, sachant qu'il n'est pas le seul dans les milieux scientifiques, ces parcours scolaires sont de plus en plus problématiques. Et alors, au vu de tous ces cadres, on s'est questionné d'un point de vue empirique sur de quelle manière, finalement, l'identification à la collectivité nationale est façonnée. C'est contenu de la partie religieuse et des parcours scolaires. Pour ce faire, alors, nous avons mené une enquête dans plusieurs collèges et lycées basés dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sélectionnés de manière aléatoire. C'était une enquête qui portait principalement sur les facteurs du lien social chez les adolescents. Donc, dans le cadre de cette présentation, nous allons nous focaliser sur une thématique très restreinte et bien précise, à savoir sur l'identification à la collectivité nationale qui a été opérationnalisée au moyen des deux items issus du questionnaire trajectoire origine « Je me sens français-française » ou bien « On me voit comme un français ou française ». Autrement dit, le sentiment de Francie. Et cette variable dépendante a été analysée, a été étudiée au moyen de plusieurs variables explicatives. Dans un premier temps, l'appartenance religieuse, ensuite les variables liées au parcours scolaire, et enfin les variables d'ordre sociodémographique. Bien, il est intéressant dans un dans un premier temps, de se pencher sur le rapport de la religion d'un point de vue descriptif. Donc, on voit bien qu'en ce qui concerne les appartenances religieuses, donc nous avons un tiers des élèves qui ont participé à cette enquête, presque 3000, qui se déclarent catholiques, environ 20% qui se déclarent musulmans, un peu plus de 10% qui adhèrent aux religions autres. Autre, ça veut dire des religions mineures d'un point de vue quantitatif et statistique, que nous avons été obligés quand même de fusionner dans cette catégorie. Et autre, ça veut dire juifs, ça veut dire des religions orientales, par exemple. Ensuite, en ce qui concerne la pratique, en ce qui concerne les pratiquants, voilà, c'est-à-dire les adolescents qui au moins une fois par mois se rend à un office religieux, on voit bien que la pratique concerne la moitié des élèves qui se déclarent musulmans, 40% des élèves qui se déclarent catholiques et 10% environ des élèves qui adhèrent aux autres religions. En ce qui concerne l'importance de la religion, cela a été mesuré au moyen d'une échelle en 10, 1, pas important du tout, 10, très important. Donc, on voit que les élèves qui se déclarent musulmans attribuent beaucoup plus d'importance à la religion par rapport aux élèves qui se déclarent catholiques et des autres religions. Les filles accordent plus d'importance à la religion par rapport aux garçons. Les collégiennes par rapport aux lycéennes, et probablement là, il y a aussi un effet d'âge. Et enfin, ce sont les élèves insérés dans des catégories socio-professionnelles, c'est-à-dire issus des contextes familiaux qui s'inscrivent dans les classes moyennes inférieures, qui attribuent plus d'importance à la religion par rapport aux élèves issus des catégories moyennes supérieures. Mais quand même, les effets de la catégorie socio-professionnelle ne sont pas aussi importants que ça. Même si significatif. Concernant le sentiment de francité, qui est effectivement la principale variable que nous envisageons d'expliquer, je commence à vous la présenter de manière très grossière, brute, de manière agrégée. On voit bien que quasiment 9 sur 10 se sent français, un petit peu moins, 8 sur 10 environ, ils ont le sentiment d'être perçus comme un français ou comme une française. Toujours dans cette démarche descriptive de présentation des premiers résultats, alors qu'en est-il de la situation scolaire? Et pour situation scolaire, dans ces cadres, nous nous limitons tout simplement au parcours scolaire les plus chaotiques, c'est-à-dire le parcours scolaire qui se caractérise par des expulsions, par des redoublements, par des moyennes insuffisantes. En somme, ces parcours scolaires chaotiques concernent davantage les garçons, davantage les élèves issus des familles avec des insérés dans des contextes socio-économiques de classe moyenne inférieure, voilà, concerne les élèves avec un sentiment de religiosité élevée, et cela ressort même toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire quelle que soit la religion d'appartenance. Et ces parcours les plus chaotiques concernent principalement les élèves qui se déclarent musulmans. Et si on se limite à ces trois derniers groupes, c'est-à-dire les élèves insérés dans des contextes socio-économiques plus ou moins défavorisés, qui ont un sentiment de religiosité important et qui se déclarent musulmans, c'est notamment dans les cadres de ces trois groupes d'élèves, c'est qu'elles expliquent, disons, la problématicité de leur parcours scolaire par des formes de discrimination. C'est-à-dire, oui, il m'arrivait ceci, il m'arrivait cela, des expulsions, des redoublements, des moyennes parce que c'est là un lien avec mes origines, la couleur de ma peau, avec ma religion d'appartenance, avec la langue, la langue que je parle en famille, etc. Mais de la même manière, ce sont toujours ces mêmes élèves qui font part d'un sentiment de discrimination, qui se démarquent par des projets scolaires qui sont très ambitieux, notamment par rapport aux élèves et qui ont des parcours scolaires plus ordinaires. Quels sont alors comment se structure justement le sentiment de francité? Essayons de mettre le sentiment de francité à l'épreuve de les facteurs que je vous ai présentés jusqu'à présent de manière descriptive. Pour cela, nous avons mené un modèle d'analyse multivariée stepwise, parce que l'objectif, justement, nous sommes dans le cadre d'une démarche exploratoire, et donc notre objectif est d'essayer de repérer les variables qu'au fur et à mesure contribuent à expliquer notre questionnement, c'est-à-dire ce qui influence de manière négative le sentiment de francité. Nous avons mobilisé justement des variables reliées à l'appartenance religieuse. L'appartenance religieuse a été codée en trois catégories avec aucune religion comme variable de référence. Voilà. Ensuite, nous avons mobilisé en bloc des variables relatives à l'expérience scolaire et des variables socio-démographiques. Ce qui ressort est que parmi les facteurs qui influencent en négatif, disons, le sentiment de francité, c'est-à-dire où le sentiment de francité est plus faible, plus bas, nous trouvons, par exemple, les élèves qui se déclarent l'appartenance à la confession musulmane, l'appartenance aux religions, aux autres religions, notamment par rapport à ceux qui se déclarent, qui ne déclarent aucune appartenance religieuse. Parmi les facteurs qui influencent en négatif le sentiment de francité, nous trouvons, disons, le fait d'accorder de l'importance à la religion, quelle que soit la religion pratiquée. Nous trouvons le fait de se trouver en collège par rapport au lycée. Là aussi, probablement, il y a un effet d'âge. Et en même temps, on trouve, parmi les facteurs qui influencent négativement, nous trouvons le fait de se trouver inséré dans des parcours scolaires à problématiques, marqués, comme nous avons vu tout à l'heure, par des redoublements, des expulsions, des moyennes insuffisantes, etc., par rapport à, au parcours scolaire, disons, plus ordinaire. Je tiens à souligner que, disons, le milieu socio-économique de la famille n'exerce aucune influence significative, ni le sexe des élèves, ni l'appartenance à la religion catholique. Bien. Alors, nous entrons dans la discussion de ces résultats. Alors, dans un premier temps, nous avons eu l'impression que la question islam marque un peu ces résultats, non? Parce que finalement, plus religieux, moins français, entre guillemets, bien sûr, moins bons élèves, toujours entre guillemets, des forts ressentis de discrimination, des ambitions scolaires importantes. Et notamment, tout cela est relié avec un affaiblissement du sentiment de francité. On peut peut-être mobiliser, disons, la thèse de Simon et Tibéri, c'est-à-dire que finalement cet affaiblissement du sentiment de francité ne doit pas être interprété comme une forme de dérive identitaire, mais tout simplement comme une des failles du modèle français d'intégration, l'incapacité de ce modèle à fédérer tout le pluralisme de la société française au sein de la même, disons, identité. Bon, une fois dit cela, nous avons quand même l'impression que les résultats peut-être les plus intéressants concernent le fait que l'appartenance à la religion catholique ne déclenche aucune tension avec le sentiment de francité. C'est-à-dire, nous avons vu que le sentiment de francité s'affaiblit chez les élèves qui se déclarent abstraction faite de l'intensité du sentiment, etc., qui se déclarent musulmanes, qui se déclarent appartenant à d'autres religions, etc. Mais l'appartenance catholique, par contre, n'exerce aucune influence sur le sentiment de francité. Et c'est là, me paraît peut-être, le point qui mérite à être, disons, creusé davantage. Parce que, pourtant, nous parlons bien d'une identité nationale qui se veut laïque, émancipée de l'influence de la religion. Et si on suit les mêmes raisonnements, pour quelles raisons, finalement, l'appartenance à la religion catholique n'exerce aucune influence sur le sentiment d'adhésion à la communauté. Il est possible, donc, alors que le principe de laïcité affirmé dans la loi de 1905 doit être repensé, effectivement. Et pour repenser cela, peut-être il est nécessaire de se tourner vers des travaux d'ordre socio-historique, voire socio-anthropologique, des travaux qui nous permettent de comprendre qu'il est difficile, mais pas admettre, que la religion n'a pas joué un rôle quand même précis, implicite, discret, bien sûr, dans la construction de la mémoire collective liée à l'idée de nation. D'Étienne, de Joly, par exemple, mais aussi de Suzanne Citron, etc. Parce que la transmission de la mémoire liée à l'histoire de la nation s'est faite aussi par de nombreux rituels religieux. Première considération. Deuxième considération est que dans ces deux, trois dernières décennies, nous sommes confrontés à l'échelle européenne, mais notamment en France, je dirais, à des politiques identitaires qui sont assez soutenues. Voilà. Donc, des politiques identitaires où, finalement, la référence à la religion catholique ressort toujours de manière implicite pour, finalement, prendre les distances par rapport à ce que l'on n'est pas. C'est là, si on se tourne vers les travaux des politistes, on voit bien que cela ressort au niveau du panorama français, belge, au niveau des Pays-Bas et au niveau aussi de la Danemark. Et cela me rappelle également un travail des recherches que j'avais mené il y a quelques années, toujours sur des adolescents en France. Je les avais questionnés sur le français et de manière implicite, il ressortait que parmi les critères nécessaires pour définir ce type idéal de français, on comptabilisait également l'appartenance à la religion catholique, ce qui était quand même déjà il y a presque plus de 10 ans, c'était déjà relativement intéressant. Et l'effet quand même de ces l'effet implicite, voire pervers de ces politiques identitaires a été, disons, de mettre systématiquement l'accent sur une identité réelle ou supposée et de stigmatiser des groupes qui, en raison, disons, de leur tradition, de leur identité, là aussi réelle ou supposée, voilà, sont considérés, voilà, comme, disons, très éloignés par rapport au milieu culturel républicain. Donc, qui sont, disons, considérés, disons, comme le monde antimoderne, l'incompatible différence par excellence, pour reprendre les termes de la Péronie. Et nous sommes en train de parler, évidemment, du groupe qui est le plus souvent sous les feux de ces politiques identitaires, à savoir la collectivité musulmane. Donc, pour terminer, je pense que nous sommes bien éloignés de la thèse sur la perte progressive d'influence de la religion. Nous sommes plutôt confrontés disons que plutôt à son rôle ambivalent. C'est-à-dire, oui, la religion est en train de gagner du même en ce qui concerne l'identification religieuse, la pratique religieuse et l'importance accordée à la religion, les mêmes indicateurs, les indicateurs utilisés dans cette enquête, personnellement, je les avais utilisés dans une autre menée il y a une bonne dizaine d'années sur une population similaire, toujours des adolescents. Et bien, quand même, à l'époque, disons, la dimension religieuse était quand même un peu plus faible par rapport à aujourd'hui. Donc, dans seulement ces 10 dernières années, il y a des choses qui sont en train de changer. Et on est en train, je dirais, on est confronté plutôt à son rôle ambivalent. Un rôle ambivalent à la fois source de cohésion et d'opposition, parfois très conflictuelle, parce que finalement, il s'agit donc de mobiliser la religion pour dire, dans des occasions spécifiques, pour dire oui, d'accord, on est catholique, tout simplement parce que nous ne sommes pas ceci, nous ne sommes pas cela. Et dans le cas spécifique de cette enquête, les problèmes, à notre sens, concernent les écarts importants entre une population d'adolescents dont le profil semble en bonne entente avec les attentes de la société, même au point que leur affiliation religieuse ne pose aucun problème, et une autre population dont les traits culturels, par contre, semblent une cause importante de leur situation de désavantage. Alors que l'école, comment pourrait-elle œuvrer afin de réduire les écarts entre ces deux populations d'élèves et répondre à des sentiments de discrimination importants qui sont finalement le principal filtre interprétatif qui est mis en avant pour justifier une situation scolaire qui n'est pas du tout bonne, hein, et qui en même temps des sentiments de discrimination qui s'apparient, qui vont avec, à des ambitions scolaires, hein, qui sont quand même importantes parce qu'il s'agit quand même d'une population de jeunes, d'élèves, et qui malgré tout croit dans, disons, les promesses de l'école républicaine. Je vous remercie beaucoup de votre attention.
Merci beaucoup, Monsieur Alessandro Bergamaschi. Donc, je vais laisser la place à Monsieur Choukri Benayed, donc professeur à l'Université de Limoges, donc sur la question des discriminations scolaires en France, un cadre opérant.
Oui, bonjour, tout le monde m'entend et voit bien le...
C'est parfait, merci beaucoup.
D'accord, merci à vous. Bon, bien, merci pour votre invitation. Donc, ma communication s'appelle donc la discrimination scolaire, les discriminations scolaires, un cadre opérant, avec un point d'interrogation, bien évidemment. Alors, la communication commence par le constat d'une recrudescence de la thématique des discriminations dans le champ scolaire, d'ailleurs comme dans d'autres champs de la vie sociale. Et ma communication va interroger la question des discriminations en tant que politique publique et également en tant que catégorie scientifique, avec peut-être des ponts à faire entre les deux. Alors, on le verra, hein, le fil conducteur de mon intervention, c'est de souligner que ces politiques de lutte contre les discriminations sont propices à un certain nombre d'ambiguïtés, notamment dans le champ scolaire que je vais développer. Alors, au préalable, il faut rappeler que les discriminations scolaires en France, hein, la lutte contre les discriminations scolaires, au contraire de pays comme les États-Unis, ne se sont pas construites en contrepoint de la reconnaissance historique d'une discrimination officielle et systématique de certains groupes sociaux, ce qui peut expliquer tous les débats d'ailleurs autour des catégorisations ethno-raciales sur lesquelles peut-être je reviendrai dans le cours de l'intervention. En ce qui concerne la genèse de la lutte contre les discriminations en France, ça pourrait être un peu long, mais je synthétise, hein, il s'agit d'une déclinaison du respect des droits humains universels. Il s'agit également de la transposition dans le droit français de directives européennes, ce qui n'est pas d'ailleurs sans importance. Et comme l'ont montré d'autres auteurs, la politique de lutte contre les discriminations en France est particulière puisqu'elle peut être appréhendée comme une extension, une reformulation des politiques d'intégration et d'assimilation, ce qui serait bien évidemment contraire à la question de la reconnaissance, par exemple, de minorités ethniques ou raciales. Les luttes contre les discriminations visent davantage en rétablissant l'égalité entre les individus à, je dirais, reconsolider en quelque sorte le socle entre guillemets républicain. Donc il s'agit d'une configuration assez particulière, cette politique contre les discriminations qui a été décrite dans beaucoup de travaux, hein, qui à la fois, je dirais, peut être interprétée avec un paradigme racialiste, mais tout autant avec aussi un paradigme dit républicain. Dans le cadre scolaire, la reconnaissance des discriminations a été très tardive. Elle a été occultée notamment par le poids de l'élitisme républicain, de la méritocratie républicaine, de la naturalisation des déficits scolaires. Autrement dit, on a longtemps expliqué les désavantages scolaires des élèves de milieux populaires sans faire de distinction ethno-raciale par des mécanismes tels que la méritocratie, l'élitisme. Autrement dit, le champ scolaire n'apparaissait pas comme un champ, je parle des années 60-70, qui pouvait se lire en matière de lutte contre les discriminations. Mais par contre, les travaux un peu fondateurs des années 60-70 ont davantage appréhendé le champ scolaire à partir du schéma des inégalités pour lutter contre les visions individualisantes de l'échec scolaire, celles qui renvoient à la naturalisation des déficits, voire à la médicalisation de l'échec scolaire. Et en sociologie de l'éducation, notamment, cette tension entre approche individualisante ou collective du rapport à l'école est très structurante de la façon de construire les travaux de recherche. Donc, je rappelle que l'approche en termes d'inégalité a été appréhendée dans une perspective progressiste de progrès social parce qu'elle était de nature à donner lieu à une critique du fonctionnement de l'institution scolaire, à une dénaturalisation des propriétés scolaires et puis à montrer les liens que bien connus maintenant entre la reproduction scolaire et la reproduction d'un ordre social inégalitaire. Alors, de mon point de vue, la question des discriminations scolaires contribue à revisiter cette opposition qui, je le rappelle, est structurante entre individuel et collectif. Alors, je vais essayer d'expliquer en quoi. Tout d'abord, la discrimination est en droit français un droit exclusivement individuel. Hein. Alors, je ne développe pas là-dessus, hein, c'est pour des raisons liées à la construction de la citoyenneté républicaine, à des raisons constitutionnelles, mais la discrimination n'est pas un droit collectif, c'est un droit individuel, on pourrait plutôt dire la non-discrimination. Alors que les inégalités renvoient, elles, à des dimensions plutôt collectives. Autre élément de la question des discriminations, c'est son extension des champs importants. Donc, on compte, si je ne me trompe pas, aujourd'hui 24 critères de discrimination, ce qui donne lieu notamment à une dilution des discriminations dites ethno-culturelles. Autre élément qui me paraît important de cadrage, c'est que la lutte contre les discriminations, la question des discriminations, en fait, est un droit qui est compliqué à faire reconnaître, puisqu'il renvoie, alors là je renvoie à des travaux en droit public, à des critères de recevabilité. Hein, tout soupçon de discrimination ne peut pas être considéré systématiquement comme l'émanation d'une discrimination. à la règle de la preuve de la discrimination qui doit être apportée par le discriminé lui-même. Et comme le montre Stream, qui est un professeur de droit public, en fait, il y a assez peu de cas avérés de procès, pourrait-on dire, gagnés en matière de discrimination et notamment de discrimination ethno-raciale. Ce que l'on a à faire, c'est plutôt une importance du contentieux et un jeu important de la jurisprudence. Alors, la conséquence de ce que je viens de dire, les conséquences visibles notamment, alors, c'est que finalement, les potentiels discriminés font peu valoir ces droits. On le voit, par exemple, dans ce rapport de l'Observatoire national de la politique de la ville de 2009, qui montre que moins de 5% de la population des quartiers prioritaires signale des cas de discrimination. Alors, je précise que les signalements auxquels fait référence le rapport de l'ONPV, ce ne sont pas des recours en justice, mais simplement des signalements qui sont faits à un dépositaire de l'ordre public, à un enseignant, etc. C'est simplement des signalements de suspicion de discrimination et ce ne sont pas des recours en tant que tels devant les tribunaux. Je prendrai un deuxième exemple qui est celui du rapport du défenseur des droits de 2018. Et ce rapport devrait quand même nous interroger, hein, puisque je rappelle que le défenseur des droits n'est pas une juridiction en tant que telle, mais plutôt une institution indépendante à laquelle il est possible de faire des signalements. Hein, des signalements. On reste au stade du signalement. Le défenseur des droits nous montre dans son rapport de 2018 que l'éducation ne représente que 9,3% des dossiers traités. Et quand on regarde les sous-divisions, 5,4% de dossiers traités en fonction de situation de handicap, 0,8% en fonction de l'origine, 0,4% selon la nationalité et 0% selon le patronyme. Donc il y a quelque part une distorsion entre la façon de faire valoir ce que serait un droit et aussi, je l'ajoute, je l'ai plus développé dans le texte, hein, une distorsion avec la façon dont les travaux de recherche rendent compte de phénomènes dits massifs de discrimination dans le champ scolaire. Je pense notamment aux discriminations selon le patronyme. Alors, je vais un peu essayer de creuser un peu. On voit bien là qu'il y a des contradictions et des ambiguïtés. Alors, l'une des façons d'éclaircir un petit peu ces ambiguïtés, c'est tout d'abord de dire quelque chose de relativement simple. C'est que la discrimination en France scolaire ne renvoie à aucun cadre normatif et juridique précis. Hein, autrement dit, on n'a pas dans le droit français quelque chose qui nous explique ce que c'est qu'une discrimination scolaire. Alors, on a des textes, notamment la circulaire de rentrée de 2008, qui, dans son article 9, donc évoque la lutte contre toutes les violences et toutes les discriminations, notamment l'homophobie. Alors, cette circulaire qui a déjà été analysée par d'autres auteurs, notamment par Fabrice Dume, est considérée un peu comme l'un des textes un peu de référence en matière de lutte contre les discriminations scolaires. Mais quand on regarde le contenu de la circulaire, on voit que la circulaire, en quelque sorte, s'éparpille. Elle nous parle d'égalité des chances, de lutte contre l'homophobie, de lutte contre les atteintes à l'intégrité physique et à la dignité des personnes, à la dénonciation des violences dans et autour des établissements scolaires. Et dans cette circulaire, disons-le simplement, il est très difficile d'identifier qui sont les discriminants et qui sont les potentiels discriminés. Est-ce que c'est l'institution scolaire qui est discriminante ou est-ce que ce sont les élèves eux-mêmes qui se discriminent? Je vais développer un peu sur ce point. On peut relever, si je prends que l'exemple de cette circulaire, mais on aurait guère plus à se mettre sous la dent, qu'elle a un caractère non contraignant, c'est-à-dire simplement incitatif, comme pour l'ensemble des discriminations, les discriminations ethnoculturelles sont diluées au profit notamment d'une lutte contre le harcèlement scolaire. Et puis, comme l'indiquait Fabrice Dume en 2010, la discrimination, en fait, dans les textes officiels, apparaît comme une sorte de fourre-tout conceptuel dans lequel on met à peu près tout, l'égalité des chances, l'intégration, etc., etc. Donc, on voit bien que là, il y a un problème d'ordre normatif et juridique sur la définition de ce que seraient des discriminations scolaires. Alors, quand on regarde des textes ultérieurs, je les ai un peu tous regardés, bon, bien, il se confirme qu'il n'y a pas de cadre légal à la lutte contre les discriminations scolaires en France, et même les processus qu'on observe sont assez étonnants, puisque en fait, ce que l'on voit apparaître sous la bannière discrimination, c'est le plus souvent des inflexions du code de l'éducation de textes généraux. Hein. Alors, je prends quelques exemples qui ne sont pas du tout fantaisistes, hein, puisque c'est une réalité. Par exemple, une inflexion du code de l'éducation du 13 avril 2016 qui est liée à une loi plus générale sur le renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel, qui donne lieu à une déclinaison dans le cadre du code de l'éducation. On a eu aussi récemment une inflexion du code de l'éducation par une loi portant sur l'utilisation du téléphone portable, faisant référence non pas aux discriminations autant que telles, mais aux violences sexistes et encore au respect du non-consentement. On a aussi des éléments relatifs à la lutte contre les discriminations dans la réforme du référentiel de compétences des métiers du professorat de l'éducation au titre de la promotion des valeurs républicaines. Donc, si on regardait donc, la lutte contre les discriminations scolaires, on est quand même assez surpris hein, du décalage entre, je dirais, les discours publics sur l'urgence de cette lutte et finalement les déclinaisons proprement institutionnelles. Alors, par contre, on peut mentionner des initiatives importantes, par exemple, des séminaires comme le séminaire « Lutter contre les discriminations et la diversité à l'école » publié dans la revue Diversité, plusieurs rapports, bon, je les passe rapidement, hein, jusqu'à la conférence de consensus de Créteil de février 2016 et je n'oublie pas le réseau national de lutte contre les discriminations à l'école. Alors, ce que j'ai essayé de faire de façon un peu rapide, c'est d'essayer de faire un peu une analyse un peu de contenu sur les préconisations qui résultent de ces différents rapports, puisque finalement, on n'a pas de définition des discriminations scolaires dans la loi, vous l'avez compris. On a un ensemble de préconisations, de sensibilisations, et j'essaie d'en faire une typologie. Alors, ce qui ressort de façon assez forte, en fait, dans tous ces textes où le mot « discrimination » apparaît, c'est qu'on a surtout des actions en direction des élèves. Actions de sensibilisation, enseignement du fait religieux, éducation à la sexualité, éducation civique, histoire des idées. On a effectivement un corpus aussi de ce que j'appelle action-intention qui relève de la responsabilité de l'institution, par exemple l'anonymisation des dossiers d'orientation, la mixité à l'école, la constitution des classes, des protocoles de signalement de discrimination dans les établissements scolaires, avec notamment une des préconisations qui est celle de nommer un référent discrimination dans les établissements scolaires, et puis des alliances éducatives aussi avec l'environnement scolaire, les associations, la police et la justice. Alors, en fait, quand on regarde, je suis désolé, je vais un peu vite, hein, le temps nous est contraint, quand on regarde en fait ces préconisations, bah, finalement, assez peu ont été appliquées, et en tout cas, ce qui ressort de façon assez flagrante, c'est que les préconisations qui concernent les responsabilités de l'institution n'ont pratiquement pas été mises en œuvre. Celles que je mentionnais à l'instant, par exemple, l'anonymisation des dossiers d'orientation, ça n'a pas été fait. La mixité sociale à l'école, ce serait trop long d'en parler, mais on sait que cette politique est plutôt en sommeil actuellement. La constitution des classes avec des logiques de contrôle, de prévention des mécanismes discriminatoires n'a pas été mise en place, et les protocoles de signalement des discriminations non plus. La formation des personnels éducatifs, en revanche, oui, mais on ne comprend pas très bien s'il s'agit de former les personnels à la prévention de leurs pratiques discriminatoires ou bien les former justement à ces actions en direction des élèves. On observe aussi qu'on renvoie la question des discriminations finalement aux acteurs locaux en les incitant à organiser des manifestations, des rencontres, des débats, mais finalement l'institution en tant que telle, scolaire, ne se mouille en quelque sorte pas beaucoup. Par contre, ce qui ressort de façon claire, c'est une centralisation sur la responsabilité des élèves et puis un glissement de la question de la lutte contre les discriminations ethno-raciales, pour aller vite, hein, ou ethno-culturelles, vers l'idée de comportements sexistes, homophobes, la violence, le harcèlement, mais y compris le racisme. Mais ce qui est important, c'est que il s'agit très massivement d'initiatives ou d'actions qui sont menées en direction des élèves et pas en direction des personnels scolaires. Alors, ça interroge sur le statut de la lutte contre les discriminations en France pour une raison relativement simple, enfin, pour plusieurs raisons que je vais décliner, c'est que ces faits, en réalité, sont déjà encadrés par tout un arsenal juridique. S'il s'agit par exemple d'injures, de racisme, d'égalité entre femmes et hommes, de harcèlement, il y a des textes juridiques, c'est-à-dire qu'il s'agit de délits à part entière. Alors on peut se demander pourquoi ces délits déjà codifiés par la loi sont renvoyés dans l'espace scolaire à la lutte contre les discriminations. Donc là, il y a déjà une entorse, non seulement juridique, mais en matière de conception de politique publique sur ce qu'on entend par discrimination, finalement, dans l'espace scolaire, un peu comme si la lutte contre les discriminations s'était retournée contre les élèves eux-mêmes. Alors, on peut poser une question qui peut paraître un peu provocatrice à partir de ce constat. Peut-on considérer que les élèves se discriminent entre eux ? Alors, c'est la question à laquelle je vais répondre. Mais pour ça, on voit bien que la difficulté, c'est que comme on n'a pas de définition très claire de la discrimination dans le champ scolaire, on peut essayer de répondre à cette question. Alors, j'ai pris comme définition, alors je précise qu'il y en a plusieurs d'ailleurs de définitions de la discrimination en général, mais j'ai pris la définition qui est celle du défenseur des droits. Qui nous dit en droit, une discrimination est un traitement défavorable qui doit généralement remplir deux conditions cumulatives, être fondée sur un critère défini par la loi et relever d'une situation visée par la loi, l'accès à un emploi, à un service, à un logement, etc. Si on prend cette définition du défenseur des droits, on peut faire plusieurs constats. Il y a discrimination dès lors qu'il y a restriction à des accès. Premier point. Deuxième point, il y a discrimination dès lors qu'il y a relation d'autorité, de subordination, contrôlant ces accès à des biens et des services. Dit autrement, de façon relativement simple maintenant, la discrimination ne pourrait concerner, en principe, non pas les élèves entre eux, mais davantage les adultes et les encadrants dans leur relation aux élèves. Or, on a vu précédemment que précisément tous ces pans de la discrimination qui relèvent d'une relation d'autorité, d'une relation institutionnelle, sont évacués par le corpus, le faible corpus institutionnel dont on dispose en matière de discrimination. Donc, on peut se poser la question, finalement, Est-ce que l'évocation de la discrimination par l'institution scolaire elle-même n'est pas de nature à faire bonne figure pour se targuer de mener une politique de lutte contre les discriminations, mais tout en se préservant de ses propres responsabilités? Alors, dans la prochaine diapo, je montre qu'on peut prendre au sérieux la responsabilité de l'institution en matière de discrimination, de nature exclusivement institutionnelle. Alors là, j'ai pris quelques exemples. L'orientation, qui n'est pas traitée. L'accès au stage, dont les travaux notamment de Fabrice Dube ont montré que c'était un domaine très propice aux discriminations. Les pratiques de notation, le régime des sanctions, les sollicitations différenciées des élèves en classe, l'attitude personnelle des enseignants en matière de racisme, de sexisme ou d'homophobie, l'attitude générale de l'administration scolaire à l'égard de certains usagers, dans le traitement des dossiers par exemple, la ségrégation scolaire, la constitution des classes et éventuellement les sous-dotations des établissements ou bien de certaines ou bien de certains territoires. Alors, la conclusion provisoire que je tire, c'est qu'il y a un décalage entre la construction du problème public des discriminations scolaires en France et l'inanité de l'action publique en la matière, des discriminations peu définies et au mieux, hein, on pourrait considérer que si politique de lutte contre les discriminations il y avait, elle pourrait se réduire uniquement à des traitements de cas individuels conformes au droit français, et le traitement par cas individuel renvoie aux statistiques que je vous ai montrées de l'Observatoire national de la politique de la ville et du défenseur des droits, bien ça renvoie à la question probable du non-recours des droits sociaux, hein, je renvoie aux travaux de Philippe Poirin, à la fatigue de l'usager telle que l'appelle la qualifie le défenseur des droits. Autrement dit, la lutte contre les discriminations pourrait donner lieu, en plus de ces traitements par cas individuels, probablement à une racialisation de la question scolaire, mais également à une judiciarisation de la question scolaire avec de faibles chances de succès. Ça va au niveau du temps ?
Oui, très bien, vous pouvez conclure tranquillement.
Alors, j'ai un peu plus de choses à dire. Alors, je voulais prendre un extrait pour montrer un peu l'ambiguïté d'une politique de lutte contre les discriminations. C'est un extrait que j'ai relevé dans ce rapport des parlementaires sur l'évaluation de l'action de l'État dans l'exercice de ses missions régaliennes en Seine-Saint-Denis. Je rappelle que ce rapport a été écrit dans la mouvance des recours devant la HALDE de certaines municipalités pour discrimination territoriale. Alors, on a un extrait de ce rapport qui est tout à fait intéressant parce qu'il nous montre un cas précisément. Il nous dit donc que le 21 juillet, des parents d'un collégien ont fait un recours contre l'État en raison des absences non remplacées des professeurs. Le rapport parlementaire nous dit donc que cette famille a obtenu gain de cause, donc c'est rare de voir un succès aboutir, mais la conclusion, c'est que l'État a contraint à verser, enfin plutôt les tribunaux, à verser 1 euro par heure de cours non assuré, soit un total de 96 euros. Et les parlementaires commentent « Cette indemnisation a-t-elle réparé le dommage ? Non, bien évidemment. Cette condamnation a-t-elle encouragé l'État à prendre des mesures correctrices nécessaires ? Non. 96 euros sur un budget de l'éducation nationale de 60 milliards d'euros ne suffiront pas. » Alors, je précise, je ne peux pas développer là-dessus, mais là, il y a un cas où une famille a gagné contre l'État. Et on voit que la réparation est quand même extrêmement faible, dérisoire, anecdotique. On voit qu'elle est individuelle, par ailleurs, la réparation. Elle n'est pas collective. Mais par ailleurs, sans m'égarer sur des considérations de droit public, la condamnation de l'État, le chef de condamnation, ce n'est pas la discrimination en tant que telle, mais c'est la question du manquement. Alors, je passe un peu vite, puisque là, je crois que je n'aurai pas le temps, mais on voit bien que lorsqu'on se situe davantage dans la sphère académique, ce que j'ai essayé de montrer, je n'aurai pas le temps de terminer, sauf si j'ai quelques minutes supplémentaires, c'est qu'on voit qu'il y a quand même un risque stratégique, notamment dans le champ académique, à jouer discrimination contre inégalité, puisque effectivement, dans le champ académique, on voit qu'il y a une sorte de tension qui se fait jour, de catégories concurrentes entre lutte contre les discriminations et lutte contre les inégalités versus approche par des variables ethno-raciales ou approche par des variables sociales plus classiques. Alors, vous savez que l'Observatoire des inégalités a publié un document très intéressant sur cette question-là. Je passe un peu rapidement, mais l'Observatoire des inégalités, finalement, dit un peu la même chose que ce que vient de dire le rapport parlementaire. Il nous dit l'accent mis sur les discriminations masque ou risque de masquer de facto les mécanismes sociaux qui produisent les inégalités massives. Il nous dit l'identification de quelques coupables de discrimination ne doit pas cacher le problème plus général des inégalités sociales, et il précise tout le défi de l'observation consiste non pas à opposer discrimination et inégalité, mais à montrer les mécanismes complexes d'articulation entre des mécanismes inégalitaires massifs et des mécanismes également de nature discriminatoire. Alors, pour terminer, est-ce que vous me donnez une ou deux minutes pour finir ?
Oui, bien sûr.
Alors, pour finir, mais là, je vais passer quelque chose en revue qui nécessiterait quand même beaucoup plus de temps. Je voudrais rajouter que à la difficulté de définir les discriminations dans l'espace scolaire et à l'absence de cadrage juridique, il y a également une difficulté dans le champ académique à identifier des discriminations, non seulement en raison des variables disponibles. Alors là, je ne reviens pas sur le débat méthodologique à propos de l'enquête Théo et des limitations de l'enquête Théo en fonction des interdits constitutionnels. On sait que les variables disponibles dans l'enquête Théo sont ce qu'elles sont, mais elles sont quand même limitées par un cadre également juridique. Mais surtout, alors je passe un peu ce tableau, quand on regarde finalement les exploitations, certaines exploitations de l'enquête Théo, je pense notamment aux travaux de Yaël Brimbaum et Jean-Luc Primon, finalement, ils nous montrent une complexité qui, justement, ne tranche pas entre discrimination et inégalité. Ils montrent effectivement, à partir de l'enquête, l'expression d'un sentiment de discrimination, mais il nous explique aussi et il précise que ceux qui ressentent le plus ce sentiment sont également les populations qui sont d'origine populaire et ouvrière. Autrement dit, ils nous disent que ce sentiment de discrimination est à relier avec des processus de reproduction scolaire des différences. On voit là donc une forme d'articulation entre discrimination et inégalité. Les travaux de Mathieu Ichoux, que vous connaissez, vont dans le même sens, puisqu'ils nous montrent, à partir de l'enquête Théo, qu'il y a autant de différences entre les groupes allochtones et les groupes autochtones, et qu'il n'y a pas de différenciation qui est extrêmement nette. Et Mathieu Ichoux appelle non pas, je dirais, à opposer les variables raciales et les variables sociales, mais au contraire articuler inégalité et discrimination, autrement dit, comme il le dit, à élargir l'origine sociale par les propriétés sociales pré-migratoires. Donc, dit autrement, je ne veux pas rentrer dans un débat méthodologique, mais ce que mesurent les collègues qui exploitent l'enquête Théo, au fond, ils mesurent peut-être tout autant des discriminations que des inégalités sociales, scolaires, surdéterminées par des propriétés raciales. Mais on voit très bien qu'il est très difficile de trancher entre inégalités et discrimination. Enfin, je terminerai sur les travaux relatifs aux ségrégations scolaires notamment, et je pense aux travaux qui ont été publiés par le CNESCO, qui nous montrent qu'il y a effectivement des ségrégations scolaires massives, extrêmement massives, que l'on pourrait imputer, mais c'est un débat méthodologique et épistémologique à la fois, que l'on pourrait imputer aux discriminations, mais les travaux qui ont été menés sur les ségrégations, alors en plus de ceux de Félouzis Perroton, mais en tout cas ces travaux récents n'ont utilisé comme variable que les variables sociales, puisqu'ils utilisaient des bases élèves, et à partir des variables sociales, ils montrent déjà des ségrégations extrêmement massives. Donc, je m'arrêterai là pour montrer que la question de la lutte contre les discriminations pose question en termes de politique publique, mais également en termes de catégories scientifiques d'analyse, puisque même empiriquement, il est difficile de faire la distinction nette entre discrimination et inégalité. Excusez-moi d'avoir été peut-être un peu long. Merci.
Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup en tout cas.